Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Bonjour à tous. Comment maîtriser l'arrivée des migrants en Europe? La question n'est pas nouvelle et la réponse est complexe. Les trois ministres de l'Intérieur français, allemand et italien ont élaboré une feuille de route avec un projet qui ressemble déjà à un casse-tête, un code de conduite pour les ONG pour gérer notamment leurs incursions dans les eaux territoriales libyennes au plus près des migrants. Paris, Berlin et Rome voudraient aussi faire baisser la pression sur des pays comme la Grèce ou l'Italie, en accélérant les relocalisations, mais aussi les reconduites à la frontière. Sur le terrain, on estime que 62 000 réfugiés sont bloqués en Grèce depuis la fermeture de la route des Balkans. Un chiffre à revoir à la baisse, selon les ONG, compte tenu des départs clandestins. À Athènes, notre correspondante a rencontré deux migrants, un Kurde iranien et un Syrien, dont les parcours ne se ressemblent pas. Le premier veut à tout prix quitter la Grèce. Le second pense pouvoir y construire une nouvelle vie. Portrait croisé, signé Charlotte Stevenard.
Depuis bientôt trois mois, Anwar Niloufari, 30 ans, est assis devant les bureaux du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés à Athènes. Sur un carton, ce Kurde d'Iran, très maigre, a tracé 64 barres pour 64 jours de grève de la faim. Elle est aujourd'hui terminée, mais il reste car il espère obtenir l'aide du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Il demande une lettre de recommandation pour appuyer sa candidature à la procédure des réinstallations vers le Canada ou les États-Unis, chose qui se fait rarement depuis la Grèce. Après plus de deux ans et demi ici, Anwar Niloufari est amer.
Quand je suis arrivé, la situation était très difficile. Ils arrêtaient tout le monde et les emmenaient dans des centres de détention pendant 18 mois. Donc j'étais très effrayé à ce moment-là. J'avais un contrat avec un passeur qui était supposé m'emmener dans un autre pays, mais il n'a pas fait son travail. J'avais peur de sortir. Mais finalement, je suis allé dans la rue voir les organisations non gouvernementales pour avoir des informations. Je suis aussi allé au Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés pour savoir ce que je pouvais faire, quelles décisions prendre pour ma vie. Et ils m'ont dit, tu peux demander l'asile et quitter la Grèce légalement.
C'est ce qu'il fait et part pour la Suède en août 2015. Mais il raconte n'avoir appris qu'une fois sur place comment fonctionne le système européen de répartition des demandeurs d'asile, dit de Dublin. Comme le prévoit le règlement, il est donc renvoyé au bout de trois mois à Athènes, là où il a obtenu son statut de réfugié. De retour en Grèce, il court entre les administrations pour obtenir un permis de travail pour lequel il doit même faire des tests sanguins. Depuis, la procédure a été simplifiée. Il cherche à obtenir une équivalence pour ses diplômes, mais on lui dit qu'on ne reconnaît pas son université. Il essaye aussi d'apprendre la langue, mais là aussi, il doit se débrouiller seul.
Les organisations non gouvernementales à Athènes ne fournissent pas de véritables formations de langue. Seulement une heure par semaine, c'est le maximum que ces gens peuvent faire pour vous. Avec une heure, personne ne peut apprendre une langue. Ce pays doit comprendre qu'il ne protège pas les réfugiés.
Il raconte avoir été réfugié pendant 11 ans en Irak, où il a pu obtenir un diplôme d'ingénieur civil et travailler deux ans dans le secteur de la construction avant de fuir à nouveau face à l'arrivée de l'État islamique. En Grèce, un an et demi après son retour de Suède, il n'arrive à rien sauf à dépenser ses économies. Il se décide alors à commencer une grève de la faim. Trois semaines plus tard, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés lui propose un logement temporaire et une allocation de 150 euros par mois, ce qui est offert à tous les réfugiés depuis septembre. Il refuse, excédé.
Qu'est-ce que je ferais avec un logement temporaire? C'est pas une solution. Je n'ai jamais eu de logement temporaire en Irak. J'ai besoin d'opportunités. Je suis jeune, je peux travailler. Je n'ai pas besoin de votre argent, de vos dons, gardez-les. Je suis éduqué, je veux trouver un travail. J'ai besoin d'opportunités légales, car j'ai confiance. Je peux y arriver. J'ai été réfugié en Irak. Imaginez, j'ai survécu pendant plusieurs années. Ici, je ne vois aucune possibilité d'y arriver.
Pour lui, bloquer les réfugiés en Grèce ne profite à personne.
Je n'ai pas la possibilité d'avancer, je n'ai pas la possibilité de reculer. Et il n'y a pas de futur ici. C'est comme prendre cet arbre magnifique le mettre dans le désert et attendre qu'il prospère, qu'il vous donne de l'ombre et des fruits. Ce n'est pas possible. Il va mourir. C'est ce que je vis et ce que vivent beaucoup de réfugiés ici. C'est criminel.
This is going to die. Perish.
Un autre réfugié syrien, lui, donne rendez-vous devant la gare de Larissa à Athènes. Il porte une chemise car il a un entretien d'embauche avec une organisation non gouvernementale pour travailler comme traducteur. Vassil, ou Vassilis, comme ses amis le surnomment en Grèce, est ici depuis 8 mois. Pour lui, ça n'a pas été facile non plus au début lorsqu'il est arrivé sur l'île de Chios.
J'ai détesté la situation là-bas et j'ai pensé que toute la Grèce était comme ça. Quand je suis arrivé à Athènes, j'ai décidé de partir illégalement avec un passeur dans n'importe quel pays. J'ai essayé une fois, deux fois, trois fois, mais j'ai pas réussi. À ce moment-là, j'ai rencontré ma copine, je suis tombé amoureux. Et vous savez, quand vous tombez amoureux, tout change. Parfois, vous avez un verre à moitié plein devant vous et vous ne regardez que la partie vide. Et quand je suis tombé amoureux, j'ai regardé la Grèce d'un tout autre œil. C'est très beau. J'aime l'endroit, j'aime les gens, tout est beau ici.
Grâce à l'aide de sa petite amie qui habite à Athènes, ce jeune homme de 25 ans s'en sort plus facilement dans le labyrinthe administratif grec, même si sa vie ne ressemble pas à celle qu'il avait en Syrie, où il vivait seul dans un bel appartement. Désormais, il loge avec trois amis dans un conteneur du camp de Skaramagas, loin du centre d'Athènes où se trouvent 3000 autres personnes. Contrairement à Anvar Niloufari, il est arrivé à une époque où des structures étaient déjà en place pour accueillir les réfugiés. Plus que le confort, ce qu'il voudrait, c'est qu'on lui donne la possibilité de s'intégrer plus facilement parce que, malgré le fait qu'il ait une copine grecque, il n'est pas facile de rencontrer des locaux.
Non, c'est pas facile. Vous pouvez aller à Omonia, à Syntagma, à Monastiraki. Vous pouvez aller dans les restaurants, vous pouvez marcher, vous pouvez acheter des choses, mais vous ne pouvez pas rencontrer les gens. Et croyez-moi, si vous restez avec des Grecs pendant 6 mois, vous pourrez parler grec, vous pourrez les connaître, comprendre leurs us et coutumes. Mais si vous restez 5 ans dans un camp, vous ne parlerez pas, vous ne saurez rien du pays.
Pour s'en sortir, ce diplômé d'un institut de pétrole de Homs, sa ville natale, a dû être inventif. Au camp de Skaramangas, avec ses économies, il a ouvert un restaurant fait de briques et de brocs. Ses amis ont fait d'autres choix, dit-il, en montrant la photo d'une dizaine de personnes autour d'un barbecue.
Alors lui, là, il est en Suède, celui-là en Irlande, et vous voyez, celui-là derrière, il est en Hollande. Celui qui a une barbe en Finlande, celui derrière en Allemagne. Suède, Allemagne. Ah, il reste celui-ci qui travaille avec moi et celui-là, c'est un Grec.
Grâce à un nouveau système, il a aussi obtenu le passeport européen de qualification des réfugiés, un papier qui lui permettra de faire reconnaître plus facilement ses diplômes s'il reprend ses études. Une organisation non gouvernementale lui fait suivre aussi une formation pour devenir médiateur culturel et travailler comme traducteur dans les hôpitaux, par exemple. Il a bon espoir de trouver un travail payé autour de 1000 euros par mois, un bon salaire pour un jeune en Grèce. Pour lui, c'est dans cette direction que l'État grec devrait creuser.
Il faut apprendre la langue. Quand on ne parle ni l'anglais ni le grec, qu'est-ce qu'on peut faire? Les gens attendent que le gouvernement les aide, mais il ne le fera pas. Quoi qu'il en soit, je ne veux pas que le gouvernement aide les gens avec un salaire ou un travail, mais au moins en leur donnant des cours de langue.
Si certaines procédures administratives ont été simplifiées pour les réfugiés, elles restent globalement compliquées. Sa copine grecque l'aide pour faire ses démarches, mais tout le monde n'a pas cette chance.
Avis de dépeuplement dans les pays de l'Est, de l'Europe et des Balkans. Selon le dernier rapport des Nations Unies, la population devrait encore baisser de 15% d'ici 2050. À titre d'exemple, la Bulgarie ne compterait plus que 5,5 millions d'habitants contre 7 aujourd'hui. Un phénomène inquiétant, Laurent Gélin.
Natalité en berne, exode massif des jeunes actifs, vieillissement et même baisse de l'espérance de vie. Dans les pays d'Europe de l'Est et des Balkans, il est temps de tirer la sonnette d'alarme. Selon le dernier rapport des Nations Unies, tous les États de la région devraient connaître une baisse d'environ 15% de leur population d'ici 2050. La Bulgarie pourrait être l'un des pays les plus touchés, sa population passant de 7 millions en 2017 à 5,4 millions. La situation de la Croatie n'est pas plus enviable. Le pays devrait chuter de 4 à 3,2 millions d'habitants. La baisse sera aussi spectaculaire en Roumanie, qui devrait perdre 3 millions d'habitants. Dans les régions rurales de l'est de la Serbie ou en Macédoine, de nombreux villages sont déjà pratiquement abandonnés et même les villes universitaires voient les jeunes les plus qualifiés partir pour l'Europe occidentale ou les États-Unis. Outre les problèmes sociaux entraînés par le vieillissement, comme le déficit chronique du régime des retraites, les pays de l'est de l'Europe devraient donc, dans les décennies qui viennent, être confrontés à un manque de main-d'œuvre. Des projections inquiétantes qui n'ont pourtant pas l'air de préoccuper les gouvernements de la région.
The place this time is about 100 miles from London. Yes, it's the New Forest, and the occasion of our visit is to witness a pony drift, or roundup, one of the three held every year. The riders are a mixture of volunteers and commoners, those who have grazing rights in the forest.
C'est une pratique qui remonte au XIe siècle et à Guillaume le Conquérant dans le Hampshire, dans le sud-ouest de l'Angleterre. Des éleveurs utilisent la forêt comme un espace de pâturage pour leur bétail qui vit en totale liberté. Des éleveurs triés sur le volet qu'on appelle les commoners et que Marie Billon a rencontrés.
Au bout d'une route boueuse assombrie par les arbres feuillus se trouve Pilmore Heath Farm. C'est le nom de la ferme de Lindsay Stride. Dès le portail passé, la vue s'ouvre sur un immense champ, un cheval, des vaches et une petite maison toute neuve.
Nous avons la chance d'avoir pu construire notre maison grâce au programme d'habitation des Commoners. Nous l'avons bâti en 2010 sur ce terrain que possédait ma belle famille. La plus grande menace pour la survie de la tradition du commoning, c'est le manque d'habitation. Les propriétés dans le New Forest sont extrêmement chères. Or, pour être un Commoner, il faut posséder une maison ici avec des terres. Le programme permet donc de s'assurer que ces propriétés ne puissent être vendues qu'à des fermiers commoners.
C'est à force de voir les maisons de vacances se multiplier que ce programme a été mis en place. Car les droits des commoners, notamment celui de laisser ses animaux en liberté dans la forêt, sont attachés à la terre. Lindsay, elle, est née dans la forêt et a épousé Robert, lui aussi né ici. Leurs familles sont des commoners depuis des générations. La famille Stride était mentionnée dans le Doomsday Book, ce recensement effectué en 1086 par les Normands. En sortant de la maison, on se retrouve rapidement dans un pré où pèsent quelques vaches avec leurs veaux. Pour elles, ce n'est pas encore la saison d'aller gambader dans les bois. Elles restent tranquillement avec leurs petits à portée de main de Lindsay. Naturellement, la question « combien de bovins possède-t-elle » est posée. La réponse, elle, est plus surprenante.
Alors, c'est une question qu'il est interdit de poser aux commoners. Mon beau-père répondrait « combien y a-t-il d'étoiles dans le ciel ?» C'est comme demander combien on a d'économies à la banque. Mais je vais quand même vous répondre. Nous avons environ 25 vaches et environ 20 poneys.
Watch this, it's electric. Impossible cependant d'apercevoir ces poneys, car ils ne sont pas dans les champs de Lindsay. Ils sont en liberté dans la New Forest pendant tout l'été. Et aujourd'hui est un grand jour. Lindsay n'a que des femelles, mais la saison des amours est arrivée.
So we're out on the forest now. We've come through the gate. This is where the cattle will run in and out daily. There are a few ponies up on the hill here. There's a very strict.
C'est très strict pour les étalons. Seuls les meilleurs et appartenant à une lignée particulière ont le droit d'aller dans la forêt. Cette année, 15 ont été sélectionnés et ils ont été lâchés ce matin. C'est la première fois depuis longtemps que nous avons un étalon dans notre partie du bois. Donc avec un peu de chance, on va avoir des poulains. Tous les petits nés de nos juments nous appartiendront.
Avoir l'un de ces étalons sélectionnés est un honneur qu'a connu l'an dernier Claire, une commoner elle aussi, qui nous a rejoint sur le chemin de la forêt.
Mon poney est d'une lignée très rare et il sera sûrement à nouveau sélectionné l'an prochain, mais j'ai une jument aussi qui ne va pas dans la forêt d'habitude. Je l'ai sortie exprès aujourd'hui à l'endroit où l'étalon a été remis en liberté. Avec un peu de chance, il va former un troupeau et elle sera dedans.
À peine entrée dans la forêt, coup de chance.
Oh, Sally, it could be the stallion now. They're coming this way, Claire.
Le voilà, celui qui est le plus près de nous, c'est l'étalon. C'est une chance de voir ça. Les juments sont très excités aussi. Et lui, il était à l'étable pendant tout l'hiver, c'est son moment de gloire.
Les talons galopent dans tous les sens devant un troupeau d'admiratrices en toute liberté. Alors justement, en liberté signifie aussi livrer à eux-mêmes. Pas besoin de foin ni d'avoine, les animaux de la forêt se complètent. Les cochons sont lâchés dans la forêt en septembre quand les glands sont nombreux, un mets de choix pour les porcs et qui donne à leur viande un goût particulier, mais un poison pour les vaches et les poneys. Les poneys de la New Forest préfèrent l'îlot feuillu que Lindsay nous montre par terre.
Regardez là, on peut voir la trace de leur grignotage. La tête du houx, quand il est jeune et qu'il n'est pas encore pointu, c'est une gâterie pour eux. Là aussi, on voit que l'ajon a été mangé. Ça fait briller la robe du poney. C'est un repas de choix pour un poney de la New Forest.
Un peu plus loin, on est surpris de voir du bitume apparaître au milieu des bois. 14 millions de personnes traversent et visitent la forêt chaque année. Ce sont d'ailleurs eux les seuls vrais dangers pour les poneys quand ils sont en voiture. Il y a à peu près 120 collisions par an impliquant les animaux en liberté. Les premiers sur place sont généralement les agisteurs, les policiers de la forêt, qui, à cheval, gardent un œil sur le bien-être des bêtes sur un territoire donné. L'agisteur appellera immédiatement son supérieur, le Werderer, en charge du même périmètre. Ils sont 10 Werderers en tout et tiennent même audience le troisième mercredi de chaque mois. Et si le litige ne peut être réglé dans cette cour qui fait partie du système légal britannique, le dossier est renvoyé vers la justice classique.
Rien de tout ça ne doit changer. Notre devoir est d'assurer la continuité de traditions centenaires pour que la forêt reste un endroit idéal pour nos animaux.
Ce n'est pourtant pas évident. Plus aucun commoneur ne l'est à temps plein. Lindsay travaille dans l'enseignement, Claire tient un chenil. Les subventions aident beaucoup. Lindsay bénéficie d'une aide de la politique agricole commune européenne. Pour l'après-Brexit, la communauté s'inquiète, mais prend les choses en main et espère obtenir des fonds pour les travaux de conservation qu'elle fait naturellement dans la forêt pour le bien-être de ses animaux.
This is yours. These rooms, these walls.
La National Gallery de Londres n'a qu'à bien se tenir. Après 6 ans de travaux et une facture de 30 millions d'euros, la National Gallery d'Irlande vient de rouvrir à Dublin. Un écrin moderne avec des espaces fluides réalisés par le cabinet Hennigan Peng qui tranche avec l'ancien musée dont on vantait surtout les problèmes d'humidité et les couloirs sans fin. Cerise sur le gâteau, l'entrée est gratuite. Visite avec Julien Lagache.
Vu de Marion Street, le bâtiment victorien inaugure en 1864 n'a rien perdu de son style. À peine remarque-t-on que l'entrée principale se fait maintenant par une porte vitrée pour remplacer les lourdes portes de chêne ornementées réinstallées à l'intérieur du musée. Ce n'est qu'une fois franchi le seuil que le décor risque de dérouter le visiteur familier des lieux. Épuré, modernisé, la National Gallery de Dublin a tout à la fois pris en couleur, en lumière et en design. Ainsi, la célèbre salle show, à l'origine plutôt obscure et jaunâtre, a repris vie grâce à ses larges fenêtres qui avaient dû auparavant être occultées pour accrocher des peintures faute de place. On redécouvre aussi des espaces jusqu'ici perdus ou condamnés. Les travaux d'isolation ont également permis de revoir la place de la lumière naturelle à travers les grandes verrières des ailes historiques. Et que dire des salles en enfilade de l'aile Milltown qui ont gagné en profondeur grâce à un jeu sur la couleur bleue qui donne au regard l'impression de se perdre au loin. Et si l'écrin a été revu, la collection riche de quelques 14 000 œuvres n'a elle pas changé. Mais l'institution a vécu le plus vaste réaccrochage de son histoire avec pas moins de 650 peintures, dont des toiles de maître, Rembrandt, Delacroix, Velasquez ou encore le Caravage. Quelques œuvres ont reçu une cure de jouvence bienvenue, telle le bassin d'Argenteuil avec un voilier solitaire de Claude Monet, vandalisé en 2012. Et bien sûr, le fond irlandais dans lequel on pourra découvrir ou redécouvrir le mariage de Strongbow et Aoife, toile de 3 mètres sur 5, du célèbre maître irlandais Daniel MacLise, fraîchement restauré pour le plaisir des yeux.
Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Françoise Grelot. L'émission était réalisée avec le soutien de la Direction de l'Agriculture et du Développement Rural de la Commission européenne. À demain.